Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin.
Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Parole de paix, c'est un collectif avec plusieurs organisations autour de Nancy. Il y a Amnesty International, le groupe de Nancy, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, les éditions Kairos, l'association Solidarité avec le peuple sahraoui, l'association de Palestine Solidarité, la FPS, l'association Survie Lorraine, et moi, je suis au mouvement de l'objection de conscience, Stéphane Tabourin, qui est seul autour des micros pour cette émission. De façon générale, notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur les conflits, les guerres et leur préparation, des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous parlerons nucléaire. Le nom de l'émission, c'est « Le nucléaire, c'est aussi la catastrophe ». Nous aurons l'occasion d'en parler avec notre invité, Simone Fest, que nous aurons tout à l'heure pendant le dossier. On commence, comme à l'accoutumée, par des brèves. C'est vrai que la situation au niveau de la guerre est assez préoccupante et inquiétante, tant en ce qui se passe en Ukraine avec l'agression russe, tant ce qui se passe à Gaza, où la population est massacrée et subit un génocide, et tant aussi maintenant avec peut-être de nouveaux fronts avec l'Iran, avec le Liban, etc. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler dans une émission prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses, l'époque est dangereuse. En France, on a un président qui parle que de réarmement, réarmement, réarmement. On espère que les hommes, avec un grand H, resteront raisonnables et seront utilisés plutôt la voie de la diplomatie, y compris d'une diplomatie ferme. Mais en tout cas, le choix des armes ne fait que semer le malheur et la désolation et les massacres de personnes au profit de certains pour qui c'est une très très bonne occasion de faire de l'argent, de faire de l'argent, de faire de l'argent. Donc je commence par une petite brève locale, une petite brève oui, pour dire que le 25 mai prochain, 25 mai 2024 à 16h, place, donc c'est assez loin, place Nelson Mandela à Nancy, il y aura un rassemblement dont le nom est « Toul doit renoncer à ériger une statue de Bijard dans l'espace public ». Effectivement, sur le Toulois, depuis quelque temps, un collectif qui s'appelle le collectif « Histoire et mémoire dans le respect des droits humains » essaye de lutte contre la mairie de Toul, qui a décidé, lors d'un conseil municipal, de mettre dans l'espace public toulois une statue de Marcel Bijard, de l'ancien général Bijard, une statue de 2,50 m, une statue créée par un sculpteur d'extrême droite, qui écrit dans des journaux d'extrême droite, d'ailleurs, par ailleurs, et qui a fait une statue une fondation Bijard qui est aussi sur Toul, qui a sculpté une statue. Et le projet, c'est de mettre cette statue dans l'espace public à Toul. Et des citoyennes, des citoyens sont un peu horrifiés par cette idée. L'époque n'est peut-être plus trop à faire l'éloge des colonisateurs. Cette époque-là, on l'espère bien, est passée. Et le général Bijard s'est aussi illustré par la torture dont il a été un formateur et un concepteur de torture particulièrement horrible. D'ailleurs, le collectif, on l'invitera dans une prochaine émission. Mais en attendant, notez sur votre petite tablette qu'il y a un rassemblement qui aura lieu à Nancy, pas à Toul, celui-là. Ce rassemblement, ça sera le 25 mai à 16h. Place Nelson Mandela à Nancy. Alors la place Nelson Mandela, c'est entre la place Stanislas et la Pépinière. C'est là un petit espace, là, Oui, côté Place Stanislas, mais juste avant les grilles de la pépinière dans ce petit lieu. Donc, encore une fois, Toul doit renoncer à ériger une statue de Bijard dans l'espace public. Si vous êtes d'accord pour mener cette bataille, pour vous prononcer vous aussi, eh ben, rendez-vous le 25 mai à 16h à Nancy, place Nelson Mandela. Et en attendant, vous pouvez aussi signer la pétition que ce collectif Histoire et Mémoire dans le respect des droits humains a placée sur le site de pétition en ligne qui s'appelle change.org. Et si vous tapez « pas de statue de Marcel Bijard dans l'espace public », vous tombez sur la pétition qu'on vous invite à signer. Voilà, donc pour les brèves, on va se mettre une pause musicale et commencer notre dossier. Le nucléaire, c'est aussi la catastrophe. Après cette première chanson, Pierre, tu peux lancer. Et donc c'est MC Duval, il s'appelle, et ça s'appelle « Sortir du nucléaire ». C'est parti.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil, soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour ITER et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre et les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappement fêlés pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ces mines d'uranium, contamine les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stop, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers se tapent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leurs reins ne plus fonctionner, leurs peaux se décomposer, leurs os se désagréger. 26 avril 86, Tchernobyl a explosé, l'Europe est contaminée, l'URSS est ruinée. Les plantes, l'eau, les sols, l'air et les murs sont irradiés. Là-bas, les enfants monstres hurlent leur humanité. La structure atomique en braque est détraquante et son impact est invisible et nous concocte un paquet de tracas cliniques. On en mesure à peine, les conséquences sont telles. On va compter encore des dégâts et pas qu'en Ukraine. Du 16e 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse et des milliers de gens qui carburent au Levothyrox. En PACA, tu sais, y'a tarpin de thyroïde en galère. De l'Hérault jusqu'au Mercantour, il n'y a pas que mon père. 60 000 tonnes de déchets par an. On enterre. Les outils, les machines irradiées. On enterre. Les combinaisons, les gants pollués. On enterre. Y'a plus de place à l'ague, alors dans l'aube. On enterre. Et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin.
Dans Parole de paix, dans ce numéro, nous parlons du nucléaire. Le nucléaire, c'est aussi la catastrophe. Et nous avons une invitée, nous avons Simone Fest. Bonjour, bonjour Simone, tu es avec nous ?
Bonjour.
Bonjour. Alors, on a fait appel à toi parce que tu es une militante active et depuis de nombreuses années, je crois pouvoir dire.
Oui.
Est-ce que tu peux nous faire un peu l'état de ton parcours comme militante anti-nucléaire ? Pour être et pour nous accompagner dans cette émission de Parole de paix.
Alors oui, effectivement, je suis militante depuis les années 2000 parce que j'ai habité à Paris pendant quelques années où j'ai été très très active, notamment après la catastrophe de Fukushima, puisque nous avons une diaspora japonaise qui nous a beaucoup sollicité et puis que les gens ils ont eu très très peur. Autant avant ils ne prenaient pas notre acte, autant après ils étaient très 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 mobilisés. Après, j'étais quelque temps administratrice au réseau Sortir du nucléaire. Et puis là, maintenant que je suis revenue, donc je suis alsacienne, c'est vrai que Fessenheim était, j'étais encore trop jeune à l'époque, mais Fessenheim était quand même un point d'ancrage pour moi dans la lutte anti-nucléaire.
Fessenheim, c'est une grosse centrale nucléaire. Grosse et très vieille centrale nucléaire.
Elle n'est pas très grosse, non. Elle a que deux réacteurs.
Oui. D'accord.
C'est pas grâce d'ailleurs à la lutte anti-nucléaire régionale. Hein.
Oui. Et donc,
c'est grâce aux copains qui se sont battus dans les années 70. Il y a eu une grosse, grosse mobilisation parce que sinon nous aurions eu 4 réacteurs du côté de Fessenheim et 4 autres un peu plus loin à Colmar.
D'accord. Et donc tu disais, tu as été dans le réseau de sortie nucléaire.
Oui, j'étais administratrice pendant un moment.
Et revenu en Alsace là il y a quelques années.
À la retraite. Voilà.
Tu es donc à Stop Fessenheim.
Oui.
Je rappelle pour les auditeurs que pour ces deux associations, le réseau Sortir du nucléaire, qui est un réseau assez connu et important, il y a un site internet qu'on peut retrouver.
Tout à fait. J'engage d'ailleurs tout le monde qui veut avoir un peu plus d'informations à aller sur le site réseausortirdunucléaire.org.
Ouais, on écrit juste sortirdunucléaire.org et puis on est sur le site, ça c'est bien. Et puis donc, toi, en Alsace, il y a aussi un site
stopfessenheim.org. Stopfessenheim.org, voilà. Pareil, ouais.
Et tu me disais aussi, hors micro, quand on avait un peu préparé l'émission avant, que tu étais aussi à la CRIRAD.
Tout à fait.
Donc peut-être ça c'est un...
Je pense que c'est le moment d'en parler parce que la CRIRAD a été créée justement après la catastrophe de Tchernobyl.
Ah.
Pour ceux qui étaient à l'époque déjà un peu dans l'information, moi j'y étais, mais voilà, dans les années 80, donc le 26 avril 1986, donc la centrale de Tchernobyl a explosé, enfin le cœur du réacteur a fondu. Et nous avons eu quand même des informations à la télé en nous disant « ne vous inquiétez pas, le nuage s'est arrêté à la frontière ».
Oui, beaucoup de mensonges. Donc c'est vrai que on rappelle aux auditeurs qui seraient trop jeunes que en 1986, comme tu viens de le rappeler, le 26 avril 1986, une centrale nucléaire à Tchernobyl a fondu, a explosé. C'est un accident très très grave qui a eu lieu.
Majeur. Le plus gros accident nucléaire qui ait existé.
Ouais. Donc c'était en 1986 et c'était au mois d'avril 86 et c'est pour ça qu'on a fait cette émission pour les 38 ans de cet accident. Et effectivement, qui dit nucléaire dit aussi beaucoup de mensonges officiels. Et à l'époque, on s'est rendu compte quelques années après que y compris des ministres, y compris des gens très importants, racontaient des bobards pour dire que non, la France n'avait pas été du tout touchée, alors que l'Allemagne, tous les autres pays reconnaissaient avoir eu de l'irradiation beaucoup plus haute, plus importante. Mais en France, on a nié. Moi, en France, souvent, on nie pour les choses un peu. Il y a beaucoup de choses un peu secrètes.
Il y a une raison. Moi qui habite à la frontière avec l'Allemagne, on connaît très bien nos copains anti-nucléaires allemands. En Allemagne, il n'y a pas de lien entre le nucléaire militaire et civil, puisqu'ils n'ont pas eu le droit d'avoir du militaire. Alors qu'en France, il ne faut pas oublier que la première raison de faire du civil, c'était pour avoir du militaire.
Oui. Le nucléaire, tu nous dis, il est né parce que la France voulait l'arme atomique.
Voulait sa bombe. Ouais. Ben oui. Et monsieur, quand Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés, monsieur de Gaulle a souhaité avoir la même chose. Il trouvait ça extraordinaire, quoi.
Oui. Et d'où en France une culture du secret, une culture paramilitaire, parce que le civil, le nucléaire civil est aussi empreint de beaucoup de police, beaucoup de
Vous savez, quand on est anti-nucléaire, on est souvent pourchassé, surveillé, demander à nos amis de Bure comment ils sont maltraités. Hein.
Oui, tout à fait.
Il y a quand même une répression extrêmement violente. Aujourd'hui, on la retrouve un peu par rapport aux méga-bassines, mais les premières répressions très violentes étaient par rapport au nucléaire. On a quand même eu un gars qui a été tué dans les années 70 ou 80, je sais plus, Midalon, je sais plus comment il s'appelait. Il y a eu des répressions très très violentes dans les années 70.
Et donc aussi une contestation et une lutte anti-nucléaire. Et tu disais que suite à Tchernobyl, des scientifiques ont créé une commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, le fameux CRIRAD, et dont toi tu es aussi adhérent.
Oui, je fais partie aussi. C'est Michel Rivasi, avec Michel Rivasi qui était donc une élue de la vallée de Lyon, qui a appris. Alors, je parle la petite histoire quand même, je vais vous le dire, parce que son mari est pilote et son mari a eu l'information comme quoi il y avait de la radioactivité dans l'air. Et elle a eu l'information donc par ce biais-là, alors qu'elle entendait qu'en France on disait non, il y a aucun risque et rien. Donc elle a eu comme bonne idée de créer donc ce laboratoire indépendant qui est donc qui fait des recherches sur les radioactivités ambiantes.
Des compteurs GGR. Je crois qu'ils organisent aussi des stages où ils apprennent aux citoyennes, aux citoyens à vérifier la contamination de l'air dans lequel.
Tout à fait. Et ils ont des contrats avec certaines mairies pour examiner. Par exemple, on a eu dans une ville la cour de récréation d'une école qui avait été recouverte avec du goudron qui avait été issu de produits radioactifs légèrement, mais quand même. La mairie a demandé à la CRIRAD de faire une étude et ils ont constaté cela et ils ont pu enlever tout ça. Mais il y a aussi des balises. Hein, quand l'accident de Fukushima a eu lieu, la CRIRAD a aussi fait des repérages dans toute la vallée de Lyon. Après, c'est un peu une question de bénévole. Il y a des gens qui font effectivement des repérages avec des balises que la CRIRAD met en place.
On a même eu en France des retombées ou des suites de la radioactivité des bombes françaises en Afrique, en Algérie, quand on a eu des épisodes de Sirocco où en France on avait un peu de sable du Sahara qui arrivait. Et c'est vrai que là aussi la France elle a aussi fait joujou dans les années 60 en faisant exploser en extérieur au départ et puis après en intérieur et après en Polynésie son arme atomique. Et c'est vrai que ça c'est la radioactivité des armes atomiques. Et on va davantage parler aujourd'hui des centrales nucléaires parce qu'on est aussi dans un contexte où on a un président de la République qui a envie de mettre une petite centrale nucléaire dans chaque jardin des Français en nous disant que c'est pas dangereux, que on risque rien, que on est indépendant grâce au nucléaire, un certain nombre de balivernes de mensonges qui continuent à suivre cette industrie comme tu dis qui masque qui sert de cache-sexe aussi à l'armement nucléaire, alors que le nucléaire qu'on a tous les jours, c'est pas vrai que c'est pas cher, c'est pas vrai que c'est pas dangereux, c'est pas vrai qu'on est indépendant grâce à ça, c'est pas vrai que ça, qu'on risque rien pour notre santé. Alors, justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené à être militante anti-nucléaire? Tu disais
Le risque radioactif, hein, je pense que, bon, j'ai fait un peu des études scientifiques, et je sais que la radioactivité, contrairement à une autre catastrophe, la radioactivité ne s'arrête pas ou elle s'arrête sur des milliers d'années, et donc je sais que quand il y a une catastrophe comme à Tchernobyl aujourd'hui, 40 ans après, les gens souffrent toujours et même les enfants qui naissent ont des problèmes de santé. Ça coupe la chaîne ADN. Il faut quand même le savoir. On touche au cœur de l'organisme. Oui. C'est une catastrophe qui dure. Ce n'est pas comme une autre. Bon, par exemple, vous avez vu à Toulouse, il y a une explosion de chimique. Ok, oui. Il y a eu des morts et tout ça, mais après c'est fini. On nettoie, on enlève. Et par contre, la radioactivité, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que si, par exemple, une centrale comme Blayais à Bordeaux, à côté de Bordeaux, et on a failli toucher en 99 la catastrophe. Il n'y a plus de Bordeaux, plus de vin de Bordeaux, quoi. Ouais. Les gens, ils se rendent pas compte, quoi.
Oui. Et oui, peut-être pour redire aux auditeurs, la catastrophe qui a été évitée à Blé. À côté de Bordeaux, c'était un peu du même type de ce qui est arrivé à Fukushima le 11 mars 2011, c'est-à-dire la mer qui est venue envahir une centrale nucléaire qui est pas loin de l'océan Atlantique. Et ça fait partie de tous ces risques. Là pour le coup, c'est des risques, c'est pas une erreur humaine, c'est des risques naturels qui fait peser l'approche d'une catastrophe sur le territoire. La France est un des pays qui a le plus de centrales nucléaires au mètre carré.
Nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde au mètre carré, tout à fait.
Et si on parle juste des phénomènes naturels entre guillemets, c'est vrai que on n'est pas à l'abri de centrales qui soient recouvertes d'eau, mais également dans l'autre sens des centrales qui manquent d'eau avec la sécheresse. On a eu plein de il y a tous les jours tous les jours, c'est peut-être une expression un peu trop rapide, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incidents dont on parle peu à la télévision. Quand on en parle, c'est que c'est vraiment très problématique. Le fait que l'eau se raréfie, parce que les centrales nucléaires ont besoin aussi beaucoup d'eau pour refroidir les cœurs de réacteurs, c'est donc ils sont, le nucléaire est aussi dépendant de cette raréfaction de l'eau. Et dernier point que je voulais dire moi, c'est aussi sur plusieurs centrales en France sont aussi construites sur des failles sismiques. Je pense à celle de Cresse, celle qui dans la vallée du Rhône, il y a plusieurs. Donc, tu dis, faut rappeler aux gens, parce qu'on l'a oublié et on est un peu endormi par un gouvernement qui est nucléocrate, qui a envie de développer les centrales avec un certain nombre de faux arguments. Toi, tu dis, alertez-vous, alertons-nous, renseignez-vous, le nucléaire, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de dangereux pour la santé.
Alors, j'ai envie de dire aussi que, effectivement, la coordination nationale qui s'est remise en route, là, parce que, effectivement, elle était un peu faiblarde pendant quelques années, la lutte antinucléaire, nous sommes réorganisés face au danger de la politique nucléaire de Macron. Parce que là, il veut construire 6 EPR et après encore 8. Mais problème de sa construction, c'est qu'il engage de l'argent. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, il engage de l'argent qui ne n'ira pas aux conditions immédiates pour que lutter contre le réchauffement climatique. Si on veut de l'énergie décarbonée, ben prenons les renouvelables. C'est ce qu'il y a de mieux, de plus rapide, qui s'installe le plus vite et qui coûte le moins cher. Aujourd'hui, le renouvelable, le Écoutez, le prix, j'ai juste un prix à vous donner. L'éolien en mer, c'est 30 à 60 euros le mégawatt. Alors que nous sommes avec le nucléaire, jusqu'à 70 euros, et encore, je ne parle pas de Flamanville, de mégawatt. Donc pourquoi cet argent n'irait pas dans le renouvelable? Et pourquoi cet argent n'irait pas dans la base? C'est les économies d'énergie. On a commencé à isoler les bâtiments, là, ils arrêtent tout. Alors que c'est la base, parce que la centrale nucléaire qui va être construite, les EPR qui vont être construits, c'est pour 2035, a-t-il promis, mais aujourd'hui EDF parle de 2042.
Oui, oui.
C'est trop tard, c'est trop tard. Cet argent qui devrait servir à des mesures immédiates, immédiates par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, le CO2, c'est, il n'y a pas d'autre solution que les renouvelables qui sont facilement construits et les économies d'énergie, c'est-à-dire isoler les bâtiments. C'est la première source de CO2, c'est les chauffages dans les bâtiments. Et en plus, c'est une mesure qui serait sociale, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne peuvent même plus payer leur chauffage.
Oui, tellement c'est devenu cher.
Tellement c'est cher, tellement c'est devenu cher.
Et c'est vrai qu'il est important de... on invite les auditeurs et auditrices à aller sur les sites antinucléaires. On a parlé tout à l'heure du réseau Sortir du Nucléaire, on a parlé du réseau de la CRIRAD.
LaCRIRAD.org, ouais, c'est pareil, vous avez toutes les infos. Ouais.
CRIRAD avec deux I, hein, peut-être on dit. C'est
oui, c'est ça. CRIRAD.org.
Et comme tu le dis, c'est vraiment une volonté idéologique pure, un lobby du nucléaire pour ne faire que du nucléaire. Tu nous as parlé aussi pas mal là des renouvelables. En France, il y a eu aussi un blocage et aucun fonds ou très peu de moyens pour les énergies renouvelables, solaire, l'éolien, la force marémotrice. Il y a moyen d'avoir en France beaucoup d'énergie renouvelable, et c'est des choix qui ont été faits d'être sur du tout nucléaire. La France est un des pays aussi les plus nucléarisés en tant que...
Et qui a mis le plus de barrages dans toutes les installations éoliennes, photovoltaïques. On est en France les plus mauvais d'Europe. Il faut voir l'Espagne, le Portugal, même l'Italie ont développé le renouvelable, les solaires. Pas en France, on est mauvais. L'Allemagne a 40% pratiquement de renouvelables. Le Pays-Bas, enfin, on marche sur la tête, quoi, en France.
Ouais, il faut le vendre. Il faut pour avoir aussi pour que ce gouvernement puisse et puis les précédents aussi puisse continuer sa fuite en avant sur le nucléaire. Il faut aussi un peu endormir la population, avoir un accord ou au moins un silence qui cautionne cette industrie nucléaire, alors qu'elle est très peu interrogée. Je crois qu'en France, aucun des choix sur le nucléaire n'est passé par l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de débat possible, à part les groupes dont tu fais partie d'un certain nombre, qui interpellent, qui fait des actions pour qu'il y ait un petit peu de réaction et qu'il y ait un peu de... Mais officiellement, il n'y a pas le débat sur le nucléaire n'a jamais été mis sur la table.
C'est même pire que ça. Jusqu'à présent, tous les projets de réindustrialisation passaient à l'Assemblée nationale. Là, M. Macron vient de passer un décret.
Ah oui.
Il vient de passer un décret. Ça veut dire que c'est lui qui décide tout seul qu'on va construire 6 EPR. Il n'y a aucun débat démocratique. L'Assemblée nationale n'est même pas consultée parce qu'il sait qu'il risquerait d'être mis en minorité. Donc il procède par décret sur des projets qui nous engagent pour des dizaines d'années.
Et des milliers et des milliers d'années en ce qui concerne les déchets.
Qui
est une chose. On n'en a pas encore parlé, mais les déchets nucléaires, c'est un énorme problème qui sera pour les générations et générations et générations futures, parce qu'effectivement, on ne sait pas encore comment faire. Et pour l'instant, tu as évoqué le nom tout à l'heure. Pour l'instant, ils choisissent ce qui semble être un très très mauvais choix, l'enfouissement, c'est-à-dire mettre des barils sous la terre. en disant allez à Jacques Taès, en essayant de penser qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau, qu'il n'y aura pas de corrosion des déchets nucléaires, et ces déchets font aussi l'objet d'une surveillance militaire ou policière très importante, ce qui fait que toute contestation, tout train qui transporte des déchets nucléaires et qui passe par sur les réseaux français est fortement policier. C'est un vrai danger. Donc c'est vrai que
C'est un vrai danger. Je peux vous donner une anecdote parce que j'étais à Paris. J'ai un jour assisté à un débat au CNAM avec Areva, EDF, donc sur cet enfouissement. Et donc je suis intervenue en leur posant la question, est-ce que vous savez quand même qu'il y a eu un tremblement de terre à Bâle en 1120, je crois, ou j'ai pas la date exacte, mais en 1120. J'ai dit, comment est-ce que vous pouvez assurer, puisque ces déchets vont durer des milliers d'années, que on risque pas un tremblement de terre et de tout remettre. Alors il m'a répondu, le gars d'Areva, madame, et Landra, nom de Landra, alors, il m'a dit, madame, on assure 300 ans après.
Après,
j'ai dit quoi? Après, Inch'Allah. Voilà.
Ah waouh. Donc là tu nous mets un scoop que donc Landra, ils ont changé de nom maintenant, non, c'est pas non c'est Areva qui a changé de nom, qui s'appelle Oreo maintenant.
C'est Areva, ouais, qui est devenu Orano.
Et Landra, c'est l'organisme, l'institution
qui est chargée de l'enfouissement.
De l'enfouissement, ouais. des déchets. Mm-hmm. Donc eux, ils disent que ils garantissent pour 300 ans. Donc c'est-à-dire que nous et quelques-uns de nos descendants sont garantis, mais pas après. Alors que tu le rappelles, les déchets nucléaires, ils sont dangereux pendant des milliers d'années, millions d'années, peut-être milliers d'années. Bon, Et tu parlais tout à l'heure de là aussi, c'est économiquement. Bon, tu nous as rappelé que le renouvelable était beaucoup moins cher pour produire de l'énergie maintenant. Tu nous as dit que ce qu'il fallait, c'était aussi l'isolation, parce qu'on perdait énormément d'énergie en France. Et même en tant qu'objet industriel, c'est un fiasco, le nucléaire. Là, Macron nous parle de construire des EPR. Ils sont pas foutus d'en faire fonctionner déjà un seul. On a tous entendu
à Flamanville.
Oui, oui. Et que ça a été la facture a été multipliée par combien, 3 ou au moins
par 3, on est passé, la prévision c'était 3 milliards et là on est à 20.
À 20 milliards, ben voilà. Et puis
voilà.
Et on
et 17 ans qu'ils sont en train de le construire, hein. Ça fait 17 ans. Hein.
Ouais. Et on en a promis, on a mis à la vente aussi à l'étranger. On est un peu ridicule sur donc, et ça s'appelle, c'est des nouveaux réacteurs. Moi, bon, nouveaux maintenant, ils sont un peu anciens, mais qui s'appelle des EPR, hein, c'est
EPR, ouais, pressurisé,
ouais, mais ouais. Enfin, bon, je ne sais plus. Oui, j'avais retrouvé aussi le nom. Et tu as donc, par rapport au discours pro-nucléaire, des gens qui nous disent ah, le nucléaire c'est la solution, il faut non, toi tu nous rappelles bien que c'est même impossible d'atteindre le moindre objectif écologique sur le climat si on continue à nous bercer d'illusions et à faire croire aux gens que le nucléaire est une solution. Le nucléaire est un problème, c'est pas du tout une solution.
Le problème, c'est le problème, parce qu'avec le réchauffement climatique, on aura moins d'eau, comme tu l'as dit avant, effectivement, et en plus, il faut quand même savoir qu'une centrale nucléaire, c'est une grosse cocotte minute.
Oui.
Il y a que 30% de l'énergie qui est transformée en électricité, le reste ça part dans l'air. Mmh. Donc ça réchauffe aussi l'air.
Oui, c'est autour d'une centrale nucléaire, il y a donc beaucoup de chaleur qui.
Il y a beaucoup de pertes d'énergie. Ouais, il y a beaucoup de pertes de chaleur.
Ouais, oui.
C'est si vous voulez, les gens ils se rendent pas compte qu'on est. Moi, ce que j'ai dit à une conférence, j'ai dit j'ai l'impression qu'on revient en arrière, quoi. On a aujourd'hui une technologie de pointe dans tout ce qui est renouvelable. Tous les jours, on trouve de nouveaux procédés. Il y a des choses extraordinaires qui se mettent en place sur tout ce qui est les fluides, ce qu'on appelle les fluides. Et nous, on reste sur le fossile, quoi. Il faut pas l'oublier quand même. L'uranium, c'est un fossile, quoi.
Ouais.
Et nous, on reste à la locomotive. Voilà. Moi, je dis, on est encore comme la locomotive charbon. Eh ben, les autres, ils sont au train électrique. Nous, on est à la locomotive charbon. On reste sur une industrie passée, totalement déplacée, passée. Et quelle est l'industrie qui n'est même pas assurée? Ça aussi, on le dit pas aux gens. En cas de catastrophe, il n'y a aucune assurance qui ne prend en charge une centrale nucléaire.
Oui, ça aussi, c'est effrayant. Et il y avait aussi un grand, grand mensonge sur le nucléaire, de nous dire que ça nous rendait indépendants, mais... Exactement, très bonne réponse. Pendant un temps, on se disait, bon, le Niger, quelques pays d'Afrique, on a encore la main, la France et la France-Afrique avaient un peu la main dessus, mais apparemment, ça se passe de moins en moins bien pour la France dans les pays africains qui commencent à rejeter tout ce qui a été fait. Et donc, pour avoir de l'uranium, parce que la France, il n'y a pas d'uranium sur le territoire français, sur tous les territoires français, y compris dans les territoires d'outre-mer.
Il y en a eu au départ.
C'est vrai, un petit peu.
Ah, du côté de Limoges, on a encore des terrils d'uranium, d'ailleurs, qui n'ont pas été recouverts, qui rendent la population locale malade. Oui, on a eu des terrils d'uranium dans les années 60-70, je crois.
Qui sont maintenant épuisés.
Et puis l'exploitation est trop chère, parce qu'il faut aller trop loin. Et puis c'est tellement plus pratique d'exploiter en Afrique, puisqu'on paye pas les Africains, donc ça va, c'est facile.
Et aussi dans je sais plus quel pays de l'Est...
Kazakhstan.
Une petite dictature, donc maintenant...
dictature, voilà. Là aussi, donc, ouais, on peut polluer tranquillement, le dictateur veille.
Et on est aussi à la merci pour les gens qui défendent l'idée la fausse idée qu'on était indépendant, ça nous rendait indépendant, on est un Oualou, on est indépendant de rien du tout, et notamment si le petit dictateur du Kazakhstan ferme le robinet, on n'a plus rien, donc il faut, je pense...
Et on est aussi dépendant toujours de Rosatom, pas l'oublier, parce qu'une partie du nucléaire, de l'uranium enrichi, malgré l'embargo, continue à venir de Rosatom, de Russie.
Alors,
on n'a pas assez d'entreprises, on enrichit à Malvézy, mais ça suffit pas. Pour nos centrales nucléaires, si on n'avait pas Rosatom, nos centrales ne pourraient pas tourner.
Ah, ça, je savais pas ça. Donc,
donc
tu nous dis.
Malgré l'embargo, on continue à travailler avec Rosatom.
Ah, ouais. Donc, la France continue à travailler avec la Russie, tu nous dis, y compris dans cette période où la Russie a envahi l'Ukraine et d'ailleurs qui pose aussi le problème parce que l'Ukraine est un pays avec la plus grande centrale atomique d'Europe ou du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas.
Du monde. Je crois d'Europe en tout cas.
Oui. Et donc
Zaporizhia.
Tu dis que la France qui a voulu monter sur ses ergots pour dire qu'on condamnait la Russie, on continue à avoir besoin de la Russie pour avoir de l'uranium enrichi là pour le coup.
Bien sûr.
Donc ça s'appelle cette entreprise russe Rosatom.
Rosatom, c'est eux qui construisent aujourd'hui le plus de centrales nucléaires. Ils sont à fond. De toute façon, le nucléaire va bien avec la dictature.
Oui.
Il faut un État soumis et silencieux pour imposer le nucléaire. Mmh. La démocratie, regardez, aux États-Unis, ils ont arrêté de construire des centrales nucléaires suite à Three Mile Island. Il y a eu un début de catastrophe, ils ont réussi à bloquer l'accident, mais après ça, aucun opérateur américain n'a voulu construire de centrales.
Ah oui, bon. Simone, si tu veux bien, je vais proposer une petite pause musicale de ou deux minutes avec les buralleurs qui chantaient le nucléaire, on n'en veut pas. Ça met un peu la pêche. Deux
bien.
Minutes et on continue juste après. À tout de suite.
À tout de suite.
le vivre, on n'en veut pas. Retoucher ça, l'enfouissement massif des consciences ne passera pas, l'enfouissement profond des déchets ne se fera pas, le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus, le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus, le nucléaire, on n'en veut pas.
Et un jour, le nouveau monde va apparaître. Eux, ils iront au tribunal. Et nous, on chantera. Et tu sais, ça fera peut-être un petit peu comme ça.
La 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 la. Ne passera pas l'enfouissement profond des déchets. Ne se fera pas le nucléaire, on n'en veut pas. Allez. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas.
RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin.
Et dans Parole de paix, le nucléaire, c'est aussi la catastrophe. Nous sommes avec Simone Fest, militante anti-nucléaire, et on lui donne la parole parce que on est au 38e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, et les réseaux anti-nucléaires, continuent à veiller et organisent des actions tous les ans, ou en tout cas. Simone nous disait qu'il y a eu besoin d'un réveil des mouvements anti-nucléaires. Beaucoup de luttes d'associations anti-nucléaires se sont retrouvées cet été, et pour faire le constat que il y avait actuellement, comme tu disais, encore plus avec Macron, une offensive nucléocrate, nucléophile, je ne sais pas quoi, et que la lutte d'opposition avait besoin de se ressourcer, d'être à nouveau plus combative, et donc cet été, un certain nombre de ces associations antinucléaires se sont retrouvées, avec d'autres associations de lutte, se sont retrouvées au Larzac, en août 2023, dans un festival qui s'appelait Festival des Résistantes, début août 2023, et toi tu y étais avec les associations antinucléaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel était l'objet, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces rencontres des antinucléaires?
Eh bien oui, je suis allée effectivement donc à ce rassemblement très très sympathique, avec plein de luttes. Ça fait vraiment du bien d'être à des rassemblements comme ça, parce que en fait il y avait toutes les luttes là, pour l'eau, pour les terres, pour l'air. Enfin bon, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent en France. Malheureusement, bien sûr, les médias n'en parlent pas, ils n'ont aucune envie de savoir qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette politique actuelle. Donc nous sommes retrouvés là, les antinucléaires, enfin ceux qui étaient déjà dans d'autres assos, d'autres ONG. Donc il y a eu Greenpeace, le réseau ADN, donc Arrêt du nucléaire. Il y a eu Rech, j'en oublie, et donc on s'est dit, et Hervé Kempf a animé le débat. Alors, et il nous a dit, bon, maintenant, les antinucléaires, allez, il faut vous remettre ensemble. Hein. Hervé Kent, donc, qui est le directeur de Reporter.
Ouais, c'est un journal, peut-être redire aux auditeurs, c'est un très bon journal oui. Reporter, avec le mot terre comme la terre, hein, REPORTE2RE, et c'est en ligne, hein, si on tape Reporter, ça fait partie de cette presse et de ces médias indépendants, comme Mediapart qui est payant, mais comme aussi le Média, comme aussi Blast, et donc il faut aller sur ces sources-là, et Reporter est plutôt spécialisé sur les questions écologiques. Et d'ailleurs, c'est eux donc qui organisaient le festival, ou en tout cas, moi, c'est par...
Non, c'est pas eux.
D'accord.
On dit les résistantes parce que c'est des femmes qui ont une ferme localement, qui ont prêté leur terrain.
Ah, très bien.
Et donc, il y a toute une organisation, d'ailleurs, des gens de Bure aussi, qui étaient là, qui ont participé à l'organisation.
Et donc Hervé Kempf, Hervé, hein, c'est Hervé, lui. Hervé Kempf,
ouais, c'est Hervé, ouais.
Du site, le journaliste du site Reporter, comme la Terre. Il a animé les rencontres avec les antinucléaires, et tu dis qu'il a un peu été un aiguillon ou un catalyseur pour dire toutes ces organisations, faut se mettre ensemble, la cause est trop importante actuellement.
Tout à fait, parce que c'est vrai que le mouvement nucléaire, antinucléaire, a connu un grand ressort au moment de Fukushima. Moi, je me souviens à Paris, j'étais inondée de personnes qui venaient, il faut faire quelque chose, c'est tout juste, ils ne nous engueulaient pas parce qu'on n'en fait pas assez. Et puis après, bah, comme toujours, les gens oublient, retournent à leurs affaires, etc. Donc, il y a eu ce mouvement à un peu, il y a aussi eu des gens, plus comme souvent, hein, des gens qui s'engueulent un peu, etc. Et là, on s'est dit, là, il faut absolument réagir, on va pas laisser les choses se faire comme ça, hein, en croisant les bras, quoi. Nos anciens, ceux dans les années 70, se sont donné tellement de mal. Il faut quand même rappeler que s'il n'y avait pas eu un combat dans les années 70, nous aurions 110 réacteurs en France. Ouais. On n'en a que 54.
Oui, voilà. Dont une partie est à l'arrêt parce qu'il y a des problèmes. Et donc, de ce festival, début août 2023, a été proposé la création d'une forme de regroupement. Alors, chacun restant sur ses propres travaux, déjà, ses propres luttes, mais également se dire, il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on travaille sur des luttes ensemble, et donc ça a donné la coordination antinucléaire, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Cette coordination, parce qu'on part du principe que des grosses manifs nationales, je crois qu'on va avoir du mal à en faire. On espère le 12 octobre refaire une grosse manif nationale. Mais on est parti du principe que ce qu'il faut, c'est des coordinations régionales pour que, effectivement, chaque région s'organise pour faire des actions. Et c'est vrai que là, on s'est retrouvés donc ce jour-là au Larzac, entre ceux de l'Est, du Sud, du Nord, du Paris, et on a créé des coordinations régionales. Donc nous, on a créé la coordination Nord-Est.
Ah ben voilà. Le MOC en fait partie maintenant. Donc il y a une coordination Nord-Est, il y a une coordination Sud-Est, Sud-Ouest, et puis la région parisienne, il y a 5 coordinations, comme tu dis. Et donc ces coordinations, leur acte de naissance, c'est donc au Larzac
le 6 août 2023.
Ouais. Qui a concrétisé en décembre à Paris, en décembre 2023, par la charte, par le fonctionnement. Donc, on peut encore rejoindre cette coordination.
J'encourage tout le monde d'ailleurs à participer à cette coordination. Vous pouvez aller sur le site coordination antinucléaire, noblog.org.
Alors, j'ai le titre exact du site, c'est CORD. C'est CORD, corde antinucléaire, oui. Sans accent, corde antinucléaire, noblog.org. Corde antinucléaire, noblog.org. Et si on veut écrire à la coordination antinucléaire, c'est corde, encore une fois, CORD, antinuc, ANTINUK, corde, antinuc, @riseup.net. Alors, riseup, c'est RISEUP. Net. Voilà, on pourra le retrouver. Donc toi, tu dis, il faut rejoindre quand on est quand on est dans une association ou pas, on peut aussi, à titre individuel, je pense, rejoindre. Et moi, j'ai déjà participé, ben, avec toi et d'autres, on était nombreux, à des visios, c'est-à-dire les réunions, comme on est sur une grande partie de l'Est et puis du Nord, j'ai vu ça aussi. Donc on a eu pendant un moment, moi là où c'est un temps, au moins une réunion en visio par mois, et c'est là que se décident des actions communes.
Voilà.
Et alors il y a eu le 12 mars dernier, pour se rappeler de Fukushima qui a eu lieu cet accident le 11 mars 2011. La coordination antinucléaire Nord-Est a fait une action à Strasbourg le 12 mars parce que c'était
pour alerter les
parlementaires.
Les parlementaires européens, parce qu'il faut quand même savoir que la France fait un sale boulot au niveau de l'Europe. Elle est prête à s'allier avec Orban pour avoir ses voix, pour que le nucléaire rentre dans les énergies dites vertes, pour avoir les financements européens, parce qu'on sait très bien qu'en France, on n'aura pas assez les moyens. On est en train de plomber notre budget avec ce programme nucléaire. Il faut 100 milliards pour remettre en état les vieilles centrales, et encore, avec tous les risques. Il va falloir 51 milliards pour construire les sites d'EPR. Mais là, on est déjà à 66 milliards. Alors que EDF est en déficit. Donc, Macron fait tout pour avoir des financements. Alors, il y a l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne qui s'opposent. Et nous, donc, on a fait cette action pour alerter les députés européens pour dire on n'est pas derrière Macron, il y a des antinucléaires en France. Écoutez-nous.
Oui, et donc, au 14e anniversaire de Fukushima, et ce qui s'approche pour nous, c'est les 38 ans de Tchernobyl, et là aussi dans toute la France, et il va y avoir des actions autour du 26 avril, et dans le Grand Est, je vois l'affiche sous les yeux, du 26 au 28 avril 2024, le nucléaire c'est aussi la catastrophe, Tchernobyl, Fukushima, centrale vieillissante, déchets radioactifs, il y a un appel à un rassemblement dans le Grand Est autour de la centrale nucléaire de Katnum. Donc on peut peut-être dire aux auditeurs, aux auditrices, qu'il est possible de rejoindre cette grande manifestation autour de Katnum, qui aura lieu le samedi, elle a été mise un samedi, le samedi 27 avril. Le rendez-vous est à 12h au parc de Katnum, parc de loisirs côté de la Moselle. Il y aura bar, il y aura restauration, mais chacun est invité à venir aussi avec un pique-nique à partager.
Et Confédération propose de faire des repas.
La Confédération paysanne, tu veux? Oui, d'accord. On pourra aussi trouver sur place tout ce qu'il faut. Et le départ de la manifestation vers la centrale. Donc, il y a la ville, le village de Katnum, la ville de Katnum, en Moselle. C'est à côté de chez nous, les Meurthe-et-Mosellans, et à côté de chez vous, les Alsaciens. Vous êtes même encore plus fort. Vous faites un bus, je crois.
On organise un départ en bus depuis Mulhouse, Colmar, Célestin, on remonte. Ouais.
Ouais, j'ai vu ça. Donc j'invite les gens s'ils sont alsaciens ou aller voir sur le site. Moi, j'ai trouvé sur le site Stop Fessenheim. J'ai trouvé la manifestation. J'ai trouvé votre bus. Vous reprenez le communiqué de presse. On a tous le communiqué qu'on retrouve aussi sur le site dont on a parlé tout à l'heure, le site de la coordination. Et nous sur la Meurthe-et-Moselle en général et Nancy en particulier, on va organiser plutôt des covoiturages pour se rendre à Katnum le 27 avril prochain. Qu'est-ce que... Oui, c'est... Donc c'est important de... On vient de dire durant toute cette émission que c'est important de maintenir la lutte, de l'amplifier contre le nucléaire, qui est un mensonge permanent, qui est un danger, qui est un danger à plusieurs niveaux. Sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, on avait trouvé les 8 bonnes raisons d'être anti-nucléaire, mais on a un peu fait le tour tous les deux, merci à toi Simone, sur les questions de santé, les questions de sécurité, les questions de l'économie, qui a tout ça, le nucléaire est une gabegie, est un danger, sur le modèle énergétique, sur la démocratie, on en a parlé aussi, sur les droits humains qui sont bafoués, les emprisonnements préventifs des antinucléaires, les emprisonnements des militants de Bure, et puis c'est aussi une raison, c'est aussi l'environnement, bien sûr, et la dernière, c'est pas dans l'ordre, mais c'est penser aux générations futures. Donc il y a sur le site Sortir du Nucléaire, sortirdunucléaire.org, 8 bonnes raisons d'être anti-nucléaire. Je vois que le temps file, donc on va se dire au revoir, si tu veux bien, Simone, et se retrouver à Cattenom.
Le 27 avril.
Et n'hésitez pas à envoyer un message, à un mail à corde-antinuc@riseup.net pour avoir des informations. On peut aussi écrire, on peut aller sur le site de Stop Fessenheim, sur le site de la CRIRAD. Je pense que tous les sites antinucléaires, on a parlé du réseau Sortir du Nucléaire. Peut-être que même sur, j'ai pas été voir, mais sur Reporter, ils doivent parler sans doute.
Reporter reprend régulièrement toutes les infos. D'ailleurs, c'est par eux que j'ai appris qu'il y avait un décret et non pas un projet de loi.
Ah voilà, donc on invite les auditeurs, comme dans chacune de nos émissions, à s'informer par soi-même, ne pas que écouter le gouvernement. Et je te dis au revoir, Simone.
Au revoir. Écoute, merci pour cette proposition. Je pense que effectivement, si on peut convaincre, ça ne serait que 2-3 personnes. Je crois qu'il faut que, notamment les jeunes, ils se rendent compte que leur avenir est en jeu, aussi bien financier que écologique, réchauffement climatique. C'est vraiment l'avenir. Moi, je suis plus âgée, mais je dis, c'est pour nos jeunes, il faut se battre, ne pas accepter ce diktat des nucléaires, des nucléocrates.
Oui, et leurs mensonges, et leur monde.
Je te dis
au revoir, et donc on pourrait écouter l'émission qui a été managé par notre ami Pierre aux manettes, merci à lui, et donc on peut réécouter Parole de paix sur rcn-radio.org. À bientôt pour une prochaine émission.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.